Donc nous continuons aujourd'hui le cours sur la religion. Nous étions arrivés la dernière fois à la question de l'interprétation par Gramsci des thèses de Weber, du paradoxe weberien qui conciliait une théorie, une pensée, une religion déterministe et une pratique active d'entreprise et d'initiative. On avait déjà fait allusion au fait que la lecture de Marx altérait ou en tout cas contredisait ce paradoxe et mettait en quelque sorte en crise cette interprétation de Weber que Gramsci avait appliquée à l'Union soviétique et au changement, en particulier au plan quinquennaux dont il avait pris connaissance au même moment. Donc on va continuer maintenant sur cette sorte d'opposition, cette antinomie entre la conception weberienne et la conception marxiste, la conception de Marx de la philosophie et de son rôle d'interprétation des événements politiques. Entre juin et août 1932, Gramsci a donc repris sa description, énoncée plutôt à partir de Weber, de l'État soviétique comme transition, je le cite, d'une conception mécanique et purement extérieure à une conception activiste. Donc ça, c'est une idée présente au cahier 11, paragraphe 12, et dans ce même paragraphe, il reprend sa réflexion sur le rapport entre théorie et pratique et sur leur cohérence. Donc là, on va s'attarder vraiment sur ce cahier 11, paragraphe 12, parce que c'est là que s'y joue que Gramsci délibère sur la manière d'interpréter le rapport entre philosophie déterministe et fioritura d'initiative et d'intraprese, je le cite. Ce paradoxe weberien finit par lui apparaître comme une contradiction intenable. Depuis la lecture des thèses sur Feuerbach, ou la relecture des thèses sur Feuerbach au début de l'été 1932, l'incohérence entre théorie et pratique lui apparaît désormais comme intenable. Il faut, le rôle de la philosophie est de dégager la logique, la cohérence théorique immanente à l'action. Et c'est donc à cela que Gramsci s'essaie. Donc cette évolution, du passage d'une interprétation paradoxale à une interprétation cohérente, du rapport entre théorie et pratique, c'est le résultat d'une part d'un vigoureux dialogue que Gramsci mène depuis avril 1932 avec Croce, et d'autre part d'une lecture plus réaliste et inquiète, ce sont les mots de Frosini, de la situation russe. Alors tout d'abord pour parler de son dépassement de la thèse de Croce, donc de la thèse des distinti, la distinction entre théorie et pratique, Gramsci se réapproprie la critique par Marx de la religion. Alors pour observer cette reprise des thèses de Marx, je vous propose d'aller lire le texte 15, donc toujours extrait du cahier 11, paragraphe 12. Si può vedere come sia avvenuto il passaggio da una concezione meccanistica e puramente esteriore a una concezione attivistica, che si avvicina di più, come si è osservato, a una giusta comprensione dell'unità di teoria e pratica, sebbene non ne abbia ancora attinto tutto il significato sintetico. Si può osservare come l'elemento deterministico, fatalistico, meccanicistico sia stato un aroma ideologico immediato della filosofia della prassi, una forma di religione e di eccitante, ma al modo degli stupefacenti, resa necessaria e giustificata storicamente dal carattere subalterno di determinati strati sociali. Quando non si ha l'iniziativa nella lotta, e la lotta stessa finisce quindi con l'identificarsi con una serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente e ostinata. Io sono sconfitto momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare, eccetera. La volontà reale si traveste in un atto di fede, in una certa razionalità della storia, in una forma empirica e primitiva di finalismo appassionato che appare come un sostituto della predestinazione, della provvidenza, eccetera, delle religioni confessionali. Occorre insistere sul fatto che anche in tal caso esiste realmente una forte attività volitiva, un intervento diretto sulla forza delle cose, ma appunto in una forma implicita, velata, che si vergogna di se stessa e pertanto la coscienza è contraddittoria, manca di unità critica, eccetera. Ma quando il subalterno diventa dirigente, responsabile dell'attività economica di massa, il meccanicismo appare a un certo punto un pericolo imminente. Avviene una revisione di tutto il modo di pensare, perché è avvenuto un mutamento nel modo sociale di essere. I limiti e il dominio della forza delle cose vengono ristretti. Perché? Perché in fondo, se il subalterno era ieri una cosa, oggi non è più una cosa, ma una persona storica, un protagonista. Se ieri era irresponsabile perché resistente a una volontà estranea, oggi sente di essere responsabile perché non più resistente ma agente e necessariamente attivo e intraprendente. Ma anche ieri, era egli mai stato mera resistenza, mera cosa, mera irresponsabilità? Certamente no. Ed è anzi da porre in rilievo come il fatalismo non sia che un rivestimento dei deboli di una volontà attiva e reale. Ecco perché occorre sempre dimostrare la futilità del determinismo meccanico che, spiegabile come filosofia ingenua della massa e in quanto solo tale elemento intrinseco di forza, quando viene assunto a filosofia riflessa e coerente da parte degli intellettuali, diventa causa di passività, di imbecille autosufficienza, e ciò senza aspettare che il subalterno sia diventato dirigente responsabile. Una parte della massa, anche subalterna, è sempre dirigente responsabile, e la filosofia della parte precede sempre la filosofia del tutto, non solo come anticipazione teorica, ma come necessità attuale. Je vous ai lu tout cet extrait un peu long, mais décisif, parce qu'on voit Gramsci progresser dans sa réflexion sur le fatalisme, sur le déterminisme, donc derrière cela, sur une certaine interprétation de Marx, qui est celle qu'il a attribuée et reprochée à Boukharine et au marxisme, mais avant cela déjà au marxisme italien. Avant tout, je voudrais insister sur le début de l'extrait que je viens de vous lire, et en particulier sur la référence à la métaphore des stupéfiants, cette métaphore de la drogue, l'arôme idéologique, parce que c'est là qu'on c'est une métaphore classique qui n'est pas seulement chez Marx, mais la manière dont la métaphore est formulée rappelle de manière indiscutable le texte de Marx qui formule la fameuse métaphore de l'opium du peuple. Il s'agit donc d'une référence au texte pour la zur Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie, donc pour la critique de la philosophie du droit de Hegel. Donc Gramsci en dispose à ce moment-là en prison, dans une traduction française, celle de Molitor. Et peu avant d'introduire cette fameuse métaphore de l'opium du peuple, de la religion comme opium du peuple, Marx, dans ce texte, exhorte à une lutte contre la religion qui doit coïncider, je le cite, par ricochet avec la lutte contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituel. Et l'arôme est souligné. C'est le texte 16 que je vous ai mis sur l'exemplier. Et là, à la fin du premier paragraphe, la lutte contre la religion et donc par ricochet la lutte contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituel. Et c'est intéressant de voir que Gramsci reprend la formule, parle d'arôme, aroma ideologico, de même que avec dans sa reprise des textes de Weber, il avait traduit l'effet psychologique par ideologia. Ici, donc, le spirituel est traduit comme idéologique. Donc on voit que Gramsci la théorie de l'idéologie gagne en cohérence et en systématicité sous la plume de Gramsci. La description donc, du fatalisme comme aroma ideologico et la comparaison avec les stupefacenti conforte l'idée que c'est à Marx que Gramsci emprunte ces images. Mais il ne s'agit pas seulement d'un emprunt formel, rhétorique, puisque Gramsci cesse ici d'opposer catholicisme et protestantisme en tant que l'un inciterait à la passivité et l'autre à l'initiative. Ici, Gramsci élargit et radicalise sa critique des religions existantes. Parce que sa critique ne s'adresse pas seulement ici, comme chez Marx, à la religion en général, mais plus généralement encore, à l'incohérence entre théorie et pratique qu'il prête aussi bien au jésuitisme qu'au calvinisme et à un certain matérialisme historique. Et c'est d'ailleurs ces trois exemples, le jésuitisme, le calvinisme et le matérialisme historique, qui, de la suite du paragraphe que je vous ai lu, du texte que je vous ai lu, il mentionne. Ce sont trois exemples de « religione di subalterni », donc d'exemples de fidéisme incapable de se justifier rationnellement. Donc la question qui est derrière tout ça, et la question peut-être une des questions principales de ce cahier 11, paragraphe 12, c'est la valeur politique de la foi. Donc est-ce que Gramsci est partagé entre le constat qu'il est impossible de se passer d'une forme d'engagement de la foi des masses pour créer ces mouvements de masse, mais il reste donc partagé entre ce constat et en même temps son exigence humaniste qui voudrait que la raison qui voudrait rationaliser ce processus d'élaboration d'une volonté collective. Donc plus précisément, Gramsci hésite à admettre une irrationalité constitutive à ce processus de rationalisation. Donc c'est donc une alternative entre Weber et Marx. Weber qui constate ce paradoxe, cette irrationalité indépassable, et Marx qui exhorte à justement mettre fin aux contradictions de la société. Donc Gramsci finit par trancher dans une note annexe à ce même paragraphe. À la suite de ce que je vous ai lu. Donc, je ne vous ai pas lu la référence au calvinisme, c'était qu'elle révélait que Gramsci avait toujours Max Weber à l'esprit en développant ce que je vous ai lu. Et ensuite, à la page 1394 des cahiers, donc la note 1, je vous lis ce texte qui semble conclure cette longue délibération sur la valeur politique de la foi. A proposito della funzione storica svolta della concezione fatalistica della filosofia della praxis, si potrebbe fare un elogio funebre di essa, rivendicandone la utilità per un certo periodo storico, ma appunto perciò sostenendo la necessità di seppellirla con tutti gli onori del caso. Si potrebbe veramente paragonare la sua funzione a quella della teoria della grazia e della predestinazione per gli inizi del mondo moderno, che poi ha però culminato con la filosofia classica tedesca e la sua concezione della libertà come coscienza della necessità. Essa è stata un surrogato popolare del grido «Dio lo vuole, Dio lo vuole». Tuttavia, anche su questo piano primitivo ed elementare, era un inizio di concezione più moderna e feconda di quella contenuta nel «Dio lo vuole» o nella teoria della grazia. Donc Gramsci a là pris définitivement parti pour dans sa condamnation d'une position, d'une conception déterministe du cours de l'histoire, alors que précédemment il l'admettait dans des situations où les masses étaient dans l'impossibilité d'agir. Désormais, rien ne justifie à ses yeux cette conception, et elle est explicable comme transition. Et il prend l'exemple pour ça de la philosophie allemande, et probablement il pense aussi à son influence sur Crouch et l'influence de cet idéalisme allemand sur la philosophie italienne, mais il exhorte à son dépassement. Donc la concezione fatalistica de la philosophie della praxis, qui est celle de l'Union soviétique, est à nouveau comparée à la prédestination, la théorie de la prédestination calviniste, mais condamnée instantanément. Donc Gramsci exhorte à un éloge funèbre de cette conception, et donc a fait ainsi ses comptes avec Max Weber. Max Weber admettait une irrationalité constitutive du destin moderne. Marx, lui, aspire au dépassement des contradictions de cette modernité et de leurs arômes, tant théologiques que philosophiques. Donc on voit que Gramsci a pris parti pour ce dernier. La réforme protestante n'est plus un modèle pour penser la philosophie de la praxis. En tout cas, ces fondements théologiques, théoriques, ne sont plus admissibles. Gramsci, gagne en cohérence dans sa conception d'une philosophie de l'action, de la praxis, absolument immanente au cours de l'histoire.
Est-ce que c'est que la conception fataliste de la philosophie de la praxis était utile avant la prise de pouvoir parce qu'elle était perçue, parce qu'elle représentait le cours nécessaire des choses et un aboutissement nécessaire, mais qu'après, quand ils prennent le pouvoir, si elle se considère toujours comme nécessaire, ça conduit à la catastrophe.
Ça, c'est ce qu'il dit. C'est son propos dans un premier temps, ouais. Mais après quoi, il dit que même dans ces phases où les masses sont incapables d'agir, il faut les dégager de cette pensée, de cette conception déterministe, parce qu'elle les immobilise, et donc il n'y a plus de justification à cette théorisation de la situation des masses.
Il y a juste un point qui est complètement en accord avec la question que pose Clément, c'est que tu peux le faire maintenant parce que dans un endroit du monde, les masses subalternes ne sont plus subalternes, mais dirigent la production. Tant que tu n'étais pas dans cette situation-là, voilà, ça servait à préserver la possibilité de croire au lendemain qui chante. À partir du moment où ça s'est réalisé, qu'il y a eu la révolution en Russie, etc., à ce moment-là, tu peux dire... Bon, même dans les pays où on n'a pas pris le pouvoir et où les subalternes sont toujours subalternes et sont toujours donc sous domination, on a pu leur raconter que c'est pas grave, la force des choses marche pour eux et que le déterminisme historique et économique va faire que de toute façon ils vont gagner. Donc maintenant, on peut enterrer cette conception-là. C'est ça qu'il dit.
Oui. C'est que l'histoire a fait arriver à maturité la pensée de la praxis. Donc on peut s'arrêter là pour ce qui est du dialogue entre Marx et Weber, animé par Gramsci, la manière dont il fait son compte avec ses deux penseurs. Si vous n'avez pas d'autres questions sur la question, on peut passer à un autre point de cette fois-ci qui n'est plus dans le développement. Jusqu'à maintenant, on a suivi un parcours chronologique de développement de la pensée de Gramsci, d'éclaircissement et de systématisation, on va dire, de sa réflexion sur la religion. Je voudrais maintenant passer à un autre point qui va nous permettre de traverser d'autres textes, en particulier des lettres sur la question religieuse, et en s'attardant sur son concept, la manière dont il utilise et aborde le concept d'église, son approche sociologique du concept d'église, et, mais qui a encore trait à cette question du rapport entre foi et rationalité, foi et organisation. À propos de manière générale, à l'égard de la société, Gramsci se refuse à une posture purement descriptive, c'est ce qu'on a vu dans son rapport à Weber et sa critique de Weber. Il refuse la critique de Gramsci de la sociologie est connue, mais c'est la sociologie en tant que théorie désengagée et étrangère à l'action. Sa conception de la sociologie, ou enfin, sa pratique de la sociologie plutôt, est une pratique à comprendre comme un refus du rationalisme abstrait. Il défend une raison sociologique qui n'est pas celle des Lumières, de son point de vue. Et cela se traduit dans son approche de la question religieuse par le refus d'une opposition binaire entre irrationalisme religieux d'une part et raison laïque d'autre part. Pour illustrer cette idée, je vous ai mis un extrait donc c'est le texte 17, un extrait du cahier 6, paragraphe 41. C'est celui par lequel on avait commencé, je vous avais lu au tout début, là, avant les vacances, une citation de Plutarque que Gramsci relevait. Dans la suite de ce paragraphe, que nous n'avions pas lu, Gramsci cite cette fois Salomon Reinhard, un historien des religions, un des premiers considéré comme l'un des premiers historiens, enfin comparatistes qui applique aux religions une étude comparée, en particulier dans l'Orpheus, qui est un texte de 1909, et donc qui est un texte plus nouveau par sa démarche que digne d'attention par son contenu, mais en tout cas Gramsci le cite et pour le critiquer. Salomone e Reinhard nell'Orpheus definisce la religione senza presupporre la credenza in potenze superiori, un insieme di scrupoli tabù che fanno ostacolo al libero esercizio delle nostre facoltà. Gramsci commente: questa definizione è troppo ampia e può comprendere non solo le religioni, ma anche qualsiasi ideologia sociale che tende a rendere possibile la convivenza e perciò ostacola, con scrupoli, il libero o arbitrario esercizio delle nostre facoltà. Donc là, cette remarque que Gramsci adresse à Reinhard est intéressante. Donc il reproche quelque chose que Durkheim, quelques années plus tard, dans les formes élémentaires de la vie religieuse en 1912, corrigera. Reinhard donc conçoit la religion dans la continuité avec une approche illuministe, une approche dans la continuité des Lumières, en la définissant comme cet ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés, donc comme hétéronomie, donc dans un cadre qui oppose raison et contrainte. Gramsci donc conteste cette conception illuministe et individualiste de la liberté, et puisqu'il constate que c'est une définition, cette définition de la religion, qui peut s'appliquer à quelque idéologie que ce soit. Et lui, Gramsci, donc, corrèle, au lieu de les opposer, vie sociale et contrainte. Donc pour lui, cette hétéronomie est en fait inhérente à toute idéologie sociale, à toute conception de la société. Et de cette manière, il suggère qu'on peut établir une forme de commensurabilité entre religion et idéologie socialisée, puisqu'en fait, sa théorie de la religion, comme on l'a vu précédemment, est une, se définit comme idéologie socialisée, comme une pensée devenue culture. Alors, Gramsci explique ce n'est pas, que ce n'est pas à cause de la transcendance que la religion introduit de l'hétéronomie, ou limite à l'exercice de nos facultés, mais en tant qu'elle est une chose sociale. La religion implique une rationalité dont le sujet n'est pas l'individu, mais une collectivité. C'est cette contestation de la définition de Reinhard, rationaliste de la religion, est significative de l'approche qu'a Gramsci de la pensée de la sociologie et d'une pensée sociale, d'une idéologie sociale. Un autre extrait qui illustre cette approche sociologique alors là, c'est de la religion, plus précisément de l'Église. C'est un extrait, j'ai remis un extrait du cahier 11, paragraphe 12, qui s'intéresse cette fois-ci à l'Église médiévale et qui la définit comme société, comme forme de société. Parce que la force qu'il décrit comme la force des religions, c'est justement cette capacité à créer, du moins avant le Concile de Trente, un rapport dynamique entre masse et élite. Je vous lis cet extrait, c'est le texte 18. La forza delle religioni, e specialmente della Chiesa cattolica, è consistita e consiste in ciò che esse sentono energicamente la necessità dell'unione dottrinale di tutta la massa religiosa e lottano perché gli strati intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori. La Chiesa romana è stata sempre la più tenace nella lotta per impedire che, ufficialmente, si formino due religioni, quella degli intellettuali e quella delle anime semplici. Questa lotta non è stata senza gravi inconvenienti per la Chiesa stessa, ma questi inconvenienti sono connessi al processo storico che trasforma tutta la società civile e che, in blocco, contiene una critica corrosiva delle religioni. Tanto più risalta la capacità organizzatrice nella sfera della cultura del clero il rapporto astrattamente razionale e giusto che nella sua cerchia la Chiesa ha saputo stabilire tra intellettuali e semplici. I gesuiti sono stati indubbiamente i maggiori artefici di questo equilibrio e per conservarlo essi hanno impresso alla Chiesa un movimento progressivo che tende a dare certe soddisfazioni alle esigenze della scienza e della filosofia, ma con ritmo così lento e metodico che le mutazioni non sono percepite dalla massa dei semplici, sebbene esse appaiano rivoluzionarie e demagogiche agli integralisti, eccetera. E là il compara avec les idéologies immanentiste. Una delle maggiori debolezze delle filosofie immanentistiche in generale consiste appunto nel non aver saputo creare una unità ideologica tra il basso e l'alto, tra i semplici e gli intellettuali. Donc c'est la teneur de cette comparaison qui me semblait intéressante, en tout cas dans sa manière d'aborder l'Église indépendamment de son rapport à la transcendance. Et en tant qu'elle rationalise, qu'elle donne une raison sociale à la religion, autrement dit à l'idéologie socialisée. Donc cette commensurabilité entre le religieux et le social est explicitée à nouveau par Gramsci lorsqu'il développe une intuition aux fortes résonances durkheimiennes à propos de la nature de la transcendance. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une lettre à Julia, qui est à la page 182 de votre édition, c'est le texte 19 de l'exemplier. Il s'agit donc d'une lettre à Julia, qu'on aurait pu... c'est vrai que je n'ai pas pris mon texte, on aurait pu la lire en entier, mais bon, je vous y renvoie. Il s'agit d'un texte où Gramsci développe une analogie entre... il il s'entretient avec, avec son épouse des de ses problèmes de ses problèmes psychologiques, de sa sa dépression, de et Gramsci réfléchit sur le rôle de la psychanalyse et de ce qui se produit à l'intérieur il y a une réflexion sur la psychologie et sur ses mécanismes et Gramsci passe ensuite à une métaphore plus sociale. Il propose une analogie entre ce niveau individuel psychologique de la conscience et les rapports entre l'Église et la société. Donc, il s'agit de la lettre du 7 décembre 1931. Cara Julka, pochi giorni dopo che io avevo scritto l'ultima mia lettera per te, Tania mi inviò la traduzione di una tua lettera a lei. Sulle prime, a leggere questa tua lettera, quasi mi rincrebbe di averti scritto nel modo che ti scrissi. Ma ripensandoci meglio, conclusi che anzi avevo tanto più avuto ragione a scriverti come ti avevo scritto. Perché infatti, non informare anche me delle tue condizioni di salute? E del resto, queste condizioni possono né spiegare né tantomeno giustificare che tu scriva tanto poco e che le tue lettere a me siano così vaghe e astratte. Del resto, ciò che scrivi della tua professoressa può essere interpretato estensivamente. Se ella si rallegra quando tu le riferisci che hai avuto momenti di collera, di sfogo, manifestati in parole aspre, si può dedurre che sia utile provocare in te questi momenti, tormentandoti senza requie. La personalità e la volontà sono prodotti dialettici, di una lotta interiore che può e deve essere esteriorizzata, quando internamente l'antagonista è soffocato per un processo morboso. L'importante sarebbe che quel tormentare non sia un astratto tormentare, ma un concreto pungolo della coscienza, mosso e vibrato razionalmente. Il motivo razionale mi pare debba essere questo. Noi siamo uniti da vincoli non solo di affetto, ma di solidarietà. Là, vous voyez la transition entre l'individuel et le collectif. Quali, volta a volta, possono essere i più forti e reattivi? L'affetto è un sentimento spontaneo che non crea obblighi perché è fuori dalla sfera della moralità. Può essere suscitato irrazionalmente e potrebbe esserlo, per esempio se da parte mia ti scrivessi lettere infiammate. Potrei scriverle, naturalmente, in tutta sincerità, ma non voglio. Le mie lettere sono pubbliche, non riservate a noi due, e la coscienza di ciò mi obbliga ferreamente a limitare l'esplosione dei miei sentimenti in quanto si esprimono in parole scritte in queste lettere. Ci sono dunque i vincoli di solidarietà su cui si può e quindi si deve far leva. E mi pare ora che io non avrei mai dovuto smettere di tormentarti in questo senso. Avrei dovuto porti spesso dinanzi a un tuo dovere oggettivo, e dico oggettivo appunto perché dipendente solo dai vincoli di solidarietà. E là Gramsci illustre: voglio fare l'esempio della Chiesa e della religione. Per la Chiesa, la credenza in Dio dovrebbe essere per ogni uomo la fonte della massima consolazione e la base incrollabile della vita morale. Ma pare che la Chiesa non si fidi troppo di questa incrollabilità e della saldezza di questa consolazione rasserenante, perché spinge i fedeli a creare istituzioni umane che con mezzi umani vengono in soccorso degli afflitti e impediscano loro di dubitare e di scuotersi nella loro fede. Pare dunque che la Chiesa stessa implicitamente intenda che Dio non è altro che una metafora per indicare l'insieme degli uomini organizzati per il mutuo aiuto. Ma se la Chiesa, organismo spiritualista per eccellenza, ricorre a mezzi umani per tenere desta la fede nelle forze soprannaturali, cosa si dovrebbe dire di organismi laici, realistici per eccellenza, che non facessero ricorso ai mezzi umani per sostenersi? E infatti non succede. Succede che singoli appartenenti a questi organismi trascurino i loro doveri in proposito, nonostante talvolta che essi formalmente appartengano a istituzioni specializzate per aiutare gli afflitti, scusandosi farisaicamente col pensiero che l'afflitto deve essere tanto forte da sostenere con mezzi propri le sue forze morali. Ma anche se ciò avviene, e avviene certamente, il dovere è compiuto da una parte sola e un richiamo all'altra parte necessario. Naturalmente io vorrei farti passare un momento di collera e così farti lodare dalla tua dottoressa. Cara Yulka, ti abbraccio forte. Donc, je pense que cette lettre valait d'être lue intégralement. J'ai regretté après de ne pas avoir pu vous la lire avant les vacances ou avant la dissertation, parce qu'il y avait beaucoup de matière pour réfléchir sur notre sujet. Donc la réflexion qui fait le qui est au cœur de cette lettre, c'est la possibilité de réduire la foi dans l'organisation. Donc ce qui rationalise et canalise et donne efficacité aux impulsions, aux élans des individus, c'est les organisations sociales, les institutions qui leur donnent corps. Donc loin de dénoncer cette réduction par exemple dans l'Église, de la divinité à une institution humaine, Gramsci semble au contraire y trouver une inspiration pour méditer sur son concept d'immanence. Il fait remarquer à son épouse que la religion catholique est pragmatique. Donc, là, il parle un peu en italien à une russe, parce qu'il connaît de près cette réalité de l'Église, et qui, loin de s'en remettre à la foi de ses fidèles, est consciente, elle, de l'évanescence des institutions spirituelles individuelles, et il remédie en créant ces institutions humaine, che con mezzi umani, donc cette répétition, cette insistance sur l'humanité des institutions religieuses, leur traduction sociale, qui réduit presque jusqu'à faire disparaître l'irrationalité par exemple, Salomon Reinhard prêtait aux religions confessionnelles, se reposant sur la croyance en une transcendance. Finalement, cette transcendance est presque absorbée, en quelque sorte, intégrée par les institutions telles que l'Église. Et Gramsci va jusqu'à dire que Dio non è altro che una metafora. Dieu n'est qu'une, ne pourrait être compris que comme une métaphore de ce que les hommes cherchent à concrétiser, à incarner par l'Église. Donc la foi s'incarne dans l'organisation, et c'est ce que Gramsci attend a fortiori des organisations laïques qui n'ont plus besoin d'une divinité pour rendre raison de leur existence. Donc cette interprétation métaphorique de la transcendance, on la retrouve dans un autre texte qui systématise cette conception du rapport entre transcendance et immanence. Mais avant de vous le lire, je vous propose aussi un extrait de la lettre de Gramsci à sa mère, qui à nouveau insiste sur le caractère métaphorique des croyances au surnaturel, à l'au-delà. Il s'agit de la lettre du 15 juin 1931 à la page 150 de vos éditions. Et donc c'est une lettre où Gramsci s'adresse avec beaucoup d'affection à sa mère croyante et essaie de traduire en langage immanent, donc celui qui correspond à sa conception du monde, ce que sa mère entend par immortalité de l'âme, vie dans l'au-delà. Del resto, tu non puoi immaginare quante cose io ricordo, in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi. Se ci pensi bene, tutte le questioni dell'anima e dell'immortalità dell'anima e del paradiso e dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto, che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore di bene e di male, passa di padre in figlio, da una generazione all'altra in un movimento perpetuo, poiché tutti i ricordi che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza e tu hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei già da allora nell'unico paradiso reale che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli. Vedi cosa ti ho scritto? Del resto, non devi pensare che io voglia offendere le tue opinioni religiose. E poi penso che tu sei d'accordo con me più di quanto non pare. Donc cette description des croyances de sa mère comme modo di vedere, on retrouve cette interprétation voilà, métaphorique qui rend traduisible dans le langage religieux dans le, et le langage dans le langage immanent. Et donc, je vous annonçais une systématisation de cette conception de la transcendance, cette conception métaphorique de la transcendance, au cahier 4, paragraphe 17, qui sera repris au cahier 11, paragraphe 24, où Gramsci fait de cette dimension métaphorique du langage religieux un exemple de la dimension métaphorique du langage en général. Donc là, il s'agit d'un texte sur l'immanenza e il saggio popolare, donc d'une référence a Bucarine. Ciò che si è detto della teleologia si può ripetere dell'immanenza. Nel saggio popolare si nota che Marx adopera l'espressione immanenza, immanente, e si dice che evidentemente quest'uso è metaforico. La Gramsci cite Bucarine. Benissimo. Ma si è così spiegato il significato che l'espressione immanenza ha metaforicamente in Marx? Perché Marx continua a usare questa espressione. Solo per l'orrore di creare termini nuovi? Quando da una concezione si passa a un'altra, il linguaggio precedente rimane, ma viene usato metaforicamente. Tutto il linguaggio è diventato una metafora, e la storia della semantica è anche un aspetto della storia della cultura. Il linguaggio è una cosa vivente e nello stesso tempo è un museo di fossili della vita passata. Quando io adopero la parola disastro, nessuno può imputarmi di credenze astrologiche. O quando dico perbacco, nessuno può credere che io sia un adoratore delle divinità pagane. Tuttavia, quelle espressioni sono una prova che la civiltà moderna è anche uno sviluppo del paganesimo e dell'astrologia. L'espressione immanenza in Marx ha un preciso significato e questo occorreva definire. In realtà, questa definizione sarebbe stata veramente teoria. Marx continua la filosofia dell'immanenza, ma la depura da tutto il suo apparato metafisico e la conduce nel terreno concreto della storia. L'uso è metaforico solo nel senso che la concezione è stata superata, è stata sviluppata, eccetera. Donc, c'est encore une fois un texte qui aurait pu vous être précieux pour développer la réflexion sur l'usage et la portée de la métaphore pour Gramsci. Donc il y a donc on a là le principe explicatif de cette interprétation de la religion comme métaphore, parce que Gramsci aborde la métaphore comme un langage au sens plein. Et Et j'ai oublié une autre remarque sur le texte, sur la lettre de Gramsci à sa mère. Vous avez sûrement reconnu l'influence de Croce. Nous avions lu la dernière fois le texte sur la vanità della religione, ce texte qui jugeait inutile pour la dignité humaine de croire en un au-delà, qui jugeait que ce n'était pas qu'on n'avait pas que l'homme n'avait pas besoin de cette consolation et qu'il lui suffisait de penser comment à la transmission des œuvres de l'action humaine d'une génération à l'autre. Et c'est en quelque sorte ce que Gramsci cherche à dire à sa mère, que la bonté et la force de cette femme se perpétuent, qu'il existe ou non un paradis et un au-delà. Donc cette portée métaphorique des termes de transcendance et d'immanence, elles font écho à toujours, je vous ai déjà évoqué Durkheim, que Gramsci n'a pas lu, qui est un contemporain. Durkheim déclarait devant la Société française de philosophie en 1906 qu'il ne faut voir, je le cite, dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement. C'est pas une référence dont vous avez besoin, mais je trouvais le parallèle intéressant. Et donc, chez Durkheim comme chez Gramsci, il y a réduction de l'opposition entre autonomie du rationaliste laïque et hétéronomie religieuse. Et donc, le dépassement des religions existantes, telles que Gramsci l'envisage, n'empêche pas de prendre au sérieux une fonction religieuse identifiable à une fonction sociale de l'idéologie. Pour conclure, la religion reste jusqu'au bout, tout au long des cahiers, une notion ambivalente, mais on voit que son emploi gagne en cohérence. Gramsci ne condamne pas, comme le fait la pensée libérale, la religion en tant qu'organisation sociale et hiérarchisée impliquant conformisme et contrainte. Il condamne l'Église catholique en tant qu'elle a confisqué le potentiel régénérateur de la religiosité populaire, en tant qu'elle a éteint sa spontanéité, comme en témoigne par exemple sa stérilité artistique. Pour résumer, son procès de la religion ne condamne finalement pas tant la religion que le cléricalisme jésuite et sa tendance disciplinaire, par opposition à la spontanéité franciscaine, premièrement. Deuxièmement, la métaphysique dualiste qui encourage à croire que l'homme n'a pas de prise sur la réalité. Et troisièmement, l'instrumentalisation politique de la foi des masses, même si et on peut penser à son jugement toujours plus réservé sur les événements d'Union soviétique, même s'il en parle à mots très voilés. Et donc voilà, trois niveaux de condamnation de la religion qui finalement ne touche plus la religion au sens seulement confessionnel. Donc si Gramsci devient suspicieux à l'égard des mythes et des enthousiasmes populaires, comme on a vu dans sa prise de recul sur la valeur politique de la foi, il ne perd pas de vue la nécessité d'impliquer la sensibilité des masses pour élaborer une volonté collective, d'où le rôle de ce qu'il appelle le livre vivant que serait le prince moderne. Donc là, je vous renvoie au début du cahier 13. Une hypothèse que je vous propose est que Gramsci a, entre autres, bien sûr pas seulement, il pense d'abord à Marx, à Machiavel, mais Gramsci a entre autres à l'esprit les ouvrages de dévotion d'avant le Concile de Trente, ces textes exhortatifs où s'exprimait encore une sensibilité, une spontanéité. Donc on a vu tout au long de ce parcours sur la religion que Gramsci citait la Philothée de François de Sales, le Jacopo Passavanti, Tommaso da Kempis, les Fioretti de Saint-François, tous ces textes auxquels il trouve une certaine, pour certains, une certaine fraîcheur, sont des exemples de livres vivants qui ont pu être inspirants pour lui. Et parce que Gramsci prête à l'exposition dramatique d'un programme politique des ressorts décisifs. Et on peut pour l'illustrer, finir avec la lecture d'un extrait du cahier 13, paragraphe 1. Donc c'est le dernier texte que je vous ai proposé. Il carattere fondamentale del principe è quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro vivente, in cui l'ideologia politica e la scienza politica si fondono nella forma drammatica del mito. Tra l'utopia e il trattato scolastico, le forme in cui la scienza politica si configurava fino a Machiavelli, questi dette alla sua concezione la forma fantastica e artistica per cui l'elemento dottrinale e razionale si impersona in un condottiero che rappresenta plasticamente e antropomorficamente il simbolo della volontà collettiva, il processo di formazione di una determinata volontà collettiva per un determinato fine politico. Viene rappresentato non attraverso disquisizioni e classificazioni pedantesche di principi e criteri di un metodo d'azione, ma come qualità, tratti caratteristici, doveri, necessità di una concreta persona, ciò che fa operare la fantasia artistica di chi si vuol convincere e dà una più concreta forma alle passioni politiche. Una parte importante del moderno principe dovrà essere dedicata alla questione di una riforma intellettuale e morale, cioè alla questione religiosa o di una concezione del mondo. Il moderno principe deve e non può non essere il banditore e l'organizzatore di una riforma intellettuale e morale, ciò che poi significa creare il terreno per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale e popolare verso il compimento di una forma superiore e totale di civiltà moderna. Il principe prende il posto nelle coscienze della divinità o dell'imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita, di tutti i rapporti di costume. Autrement dit, la laicisation qu'envisage Gramsci avec le prince moderne reviendrait à occuper la fonction sociale de la religion définie comme prémisse vitale et universelle, on l'avait vu, grâce à une figuration métaphorique et dynamique de l'organisation sociale. Et c'est figuration qui prend la forme du mythe. Mythe qui n'est pas la même chose que la métaphore, mais on y reviendra avec le corrigé de la dissertation.